Une nuit de décembre 2020, dans la commune de Louveciennes. Le temps est plutôt doux pour la saison. Toutes les lumières sont éteintes. Il est déjà 1h du matin. Mais tout le monde n'est pas endormi. Dans son salon, un homme griffonne un mot sur un morceau de papier. Il rature, réécrit à nouveau, barre un mot, fait une pause pour lire. Il se frotte les yeux. Non. Il roule en boule le papier, le jette dans une corbeille située à côté de lui. Il sort dans son jardin prendre l'air 1 minute. Peut-être trouvera-t-il l'inspiration. Toujours pas. Il entre de nouveau chez lui et allume son ordinateur. Les doigts tapotent sur le clavier. Il grogne. C'est trop long, pas assez touchant. Une silhouette apparaît à ses côtés. Sa femme. Allez, il est temps de te coucher maintenant. Il est tard, il faut dormir. Elle est inquiète. Depuis 10 de jours, il n'arrête pas. Les réunions, les interviews, les séances photos. Il devrait une fois rentré chez lui se reposer. Mais non. Jean-Pierre reste bloqué sur son discours d'adieu. Les mots n'arrivent pas à se frayer un chemin. Comment résumer 33 ans de carrière à la tête du JT le plus célèbre de France ?
Podcast Story.
Retour en arrière. Picardie, Amiens, 5 ans depuis la fin de la guerre. La ville a été durement touchée par les bombardements. Elle peine à panser ses blessures. C'est ici, un jour d'avril 1950, que naît le petit Jean-Pierre. Il passe son enfance dans une commune de 650 habitants, que Vauvillers. Une église, une mairie, un étang et un tilleul qui fait la fierté de tout le village. Un endroit paisible, comme oublié de la grande histoire. On y voit encore des charrettes tirées par les chevaux. Le bouleversement des Trente Glorieuses n'a toujours pas eu lieu.
Grande maison, grand jardin d'un hectare où on élevait des moutons, où on avait un poulailler avec des poules, avec des lapins, avec des tas d'animaux, des pigeons. Et voilà, c'est ça le souvenir de mon enfance, c'est ce petit village. Et puis les trottoirs qui n'étaient pas goudronnés à l'époque, pour aller jusqu'à l'école primaire où j'allais en blouse grise. Village de 650 habitants environ, dont je garde un excellent souvenir.
L'enfant grandit avec son frère aîné, de 8 ans plus âgé, Jean-François. Parfois, il va chercher le lait à l'étable. Le dimanche, il accompagne son père à la chasse. Il chante la Marseillaise à l'occasion des cérémonies du 11 novembre et vénère la figure du grand-père maternel gazé dans les tranchées en 14. Une parfaite image d'Épinal. Ce monde-là, Jean-Pierre le porte dans son cœur. La famille de Jean-Pierre est aisée. Jean-Paul, son père, est centralien et dirige une usine qui appartient à la famille depuis 2 générations. Sa mère, Françoise, est pharmacienne. Une femme à qui il doit beaucoup. Son caractère chaleureux et sa simplicité lui serviront de référence. L'enfant part régulièrement au sport d'hiver. Un loisir de luxe pour l'époque. Avec le fils du notaire, Jean-Pierre est le seul gamin du village qui possède dans sa maison une télévision. Les programmes de l'ORTF, Rintintin, Zitrone. L'enfant ne se doute pas que lui aussi passera un jour derrière le petit écran.
Quand j'étais jeune, je voulais être prêtre. Et un jour, le curé de mon village s'est cassé une jambe en fermant ses volets. J'ai donc estimé que c'était trop dangereux. Donc je suis passé au journalisme. Après, j'ai voulu être avocat aussi. J'aime bien défendre la veuve et l'orphelin. Et donc j'avais cette envie de devenir avocat à un moment de ma jeunesse.
À 11 ans, il est envoyé en internat à Amiens pour poursuivre sa scolarité. La transition est rude. Après avoir couru la campagne et usé ses souliers dans les chemins de terre, il se retrouve coincé entre 4 murs. Il redouble sa 6e, sa 2e et triple sa terminale. Finalement, il n'obtiendra jamais son bac. Le jeune Jean-Pierre a la bougeotte. Sa vraie passion, c'est le sport. Le hockey sur gazon, surtout. Cet habitué des grands espaces retrouve son bonheur sur le terrain. Grand, athlétique, très rapide, il excelle. À 15 ans, il est sélectionné en senior dans l'équipe d'Amiens. Il remporte 3 fois le titre de champion de France. C'est le temps des compétitions à l'international. Il voyage en Allemagne, Angleterre, Hollande et fait ses premières rencontres amoureuses. Une autre vocation se profile en pointillé, le journalisme. 1963, il a 13 ans. L'adolescent feuillette le journal. Il tombe sur un article pas comme les autres. La mort du pape Jean XXIII. Un frisson le saisit. Le texte capte son attention. il le lit avec avidité. Lui aussi voudrait pouvoir relater ce genre d'histoire, émouvoir le lecteur, lui faire toucher du bout du doigt les grands événements de ce monde. Même émotion quelques mois plus tard avec l'assassinat de Kennedy. Le petit Jean-Pierre monte son dossier de presse. Il découpe les journaux que reçoivent ses parents. Toujours au collège, il fait un stage au courrier Picard. Là, il découvre avec bonheur l'atmosphère trépidante des salles de rédaction. C'est décidé, il sera journaliste. Ses premiers faits d'armes ? Avec son ancien instituteur. Le maître d'école met en place pour ses élèves un petit journal appelé l'Equitum Villa. Jean-Pierre prend son rôle au sérieux. Il interroge, enquête. Il n'hésite pas à critiquer les décisions de la municipalité. Tant pis si sa mère travaille au conseil. En 1971, il remporte l'examen d'entrée pour l'école de journalisme de Lille. Il est le seul non-bachelier de sa promo. Le jeune homme alterne les cours théoriques et les stages aux bureaux régionaux de l'ORTF. Il y effectue ses premiers reportages. Un vrai touche-à-tout. Faits divers, politique, environnement, économie. Il ne s'attarde pas sur les bancs de l'école. Il en a trop bavé, adolescent. Sa rapidité, son acharnement et son endurance font mouche. Un an après la dissolution de l'ORTF, en 1975, il reçoit un appel téléphonique déterminant. On lui propose de travailler pour une toute nouvelle chaîne, TF1. Après à peine quelques mois passés à tourner des reportages pour le 13h et le 20h, il se retrouve catapulté à la présentation et à la rédaction du 23h. Il part s'installer à Paris. Il a seulement 25 ans. Il est le plus jeune rédacteur en chef de France. Jean-Pierre Pernaut est un bon, mais il manque de relations. Son réseau est quasiment nul. La concurrence est rude. Des grands tels que Michel Pollack, Sabatier, Patrick Sébastien et Anne Sinclair se partagent le gros du gâteau. Il passe inaperçu. En poste depuis 2 mois, il réalise qu'il n'a toujours pas de véritable contrat. Le DRH fait mine de ne pas le connaître. Pire, il refuse de régulariser sa situation. Il devrait savoir apprécier sa chance. Travailler pour la télévision est déjà un grand honneur. Il n'a pas à réclamer plus. C'est la douche froide. Jean-Pierre ravale son orgueil. Pour prouver qu'il a sa place dans ce petit monde très fermé, il redouble d'activité. Ses supérieurs louent sa rapidité et son endurance. Très bien, il va mettre les bouchées doubles. Il s'impose un rythme rigoureux. Tous les jours de sa semaine sont consacrés au travail. Ses efforts finissent par payer. En 1978, il quitte la niche isolée du 23h pour rejoindre l'équipe du célèbre Yves Mourouzi. Une sorte de consécration. Il va travailler pour la grande star du PAF. Rien à voir avec les autres présentateurs de l'époque. Cet homme est un trublion de la petite lucarne. Vif, décontracté, impertinent. Il n'hésite pas à interpeller le président et part aux quatre coins du monde pour être aux premières loges de l'actualité. Jean-Pierre observe avec fascination cette légende du petit écran. L'homme a dynamité les codes du journal télévisé. Il est un spectacle à lui tout seul. Son talent pour l'impro est indéniable. Il retient et apprend. Mourouzi ne lit jamais les prompteurs, il n'oubliera pas la leçon. Pour le reste, il est loin de l'admirer. Le présentateur vedette est un Parisien pur jus. Il fréquente la jet set, participe à des parties fines. Son train de vie est sulfureux à souhait. C'est un produit parfait des années 80, du chic et du choc à gogo. Ce monde-là, Jean-Pierre Pernaut n'y appartient pas. Enfant d'Amiens, attaché à sa Picardie natale, il juge avec scepticisme les frasques de son glorieux collègue. Durant le mois de juillet 1980, il remplace Mourouzi, parti en congé. L'expérience se passe bien. Trop bien. Pernaut lit un article de journal demandant si les JT ne sont pas au moins aussi bons avec les remplaçants qu'avec les titulaires. Amusé, il envoie l'article à Yves avec ce petit mot. « Dépêche-toi de revenir ». Un mois plus tard, le coup retombe. Il revient au poste de reporter. La désillusion est cinglante. Mais Jean-Pierre ne proteste pas et serre les dents. Il poursuit son travail au sein de TF1 et entame une série de reportages à l'étranger. L'élection de Mitterrand en 1981 sonne comme un coup de tonnerre. L'arrivée des socialistes laisse une grande partie du pays dans la peur et l'incertitude. Le malaise s'installe rue Cognac-Jay. Des factions apparaissent et des divisions se font jour. Pernaut renacle. L'ambiance se fait de plus en plus délétère. Certains de ses collègues se retrouvent écartés, d'autres carrément virés. le jeune journaliste ne supporte pas ce poids qui pèse sur leurs épaules. Pourquoi le journalisme est-il à ce point assujetti au pouvoir politique ? L'inquiétude est de courte durée. L'arrivée de Mitterrand au pouvoir marque de grands changements pour la télé. Canal+ voit le jour, la 5 et la 6 aussi. En 1987, TF1, jusqu'ici chaîne publique, est rachetée par le groupe Bouygues. Mourouzi, aux manettes du JT depuis plus de 13 ans, est déboulonné. Son côté « rentre dedans » et sulfureux n'est plus toléré. Ses frasques ont à la longue braqué les téléspectateurs. On lui choisit son exact opposé. Jean-Pierre est tout désigné pour la tâche. Il ne fait pas de vagues, c'est un gros bosseur qui vient à l'heure qu'on lui demande. Aux yeux de la direction, il ne brille pas autant que son prédécesseur. On ne le dit pas à voix haute, mais on n'en pense pas moins. Le changement est censé n'être que temporaire. Jean-Pierre n'est pas dupe. Il est dans ses petits souliers. Au sortir de la réunion qui acte Jean-Pierre comme présentateur du 13h, Étienne Moujotte, le bras droit de TF1, le rassure. « Si tu ne fais pas de bêtises, tu es là pour 20 ans. » Autour de lui, des rires s'élèvent, une plaisanterie bien sûr. Et pourtant...
J'ai jamais eu de triomphe dans ma vie, j'ai eu des succès, j'ai eu des, la chance d'avoir ce journal de 13 heures qu'on m'a confié en 1988, la chance que la formule qu'on a mise en place fonctionne bien avec des correspondants en région, et puis de terminer 33 ans après, premier journal télévisé d'Europe à la mi-journée.
Le 22 février 1988, sagement assis derrière son pupitre, Jean-Pierre Pernaut commence le journal par ces mots. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave accident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Tout se passe bien. Aucune anicroche. Un journal comme un autre, en somme. Le Figaro titre malicieusement « Jean-Pierre qui ?» Pernaut retourne cette faiblesse en atout. Il est anonyme ? Très bien. Le téléspectateur français moyen s'identifiera mieux. Cette apparence de simplicité et de normalité lui conviennent. Les reportages de son JT en seront plus valorisés. Jean-Pierre Pernaut entame en silence sa propre révolution. Son but à lui, c'est de parler d'une France à mille lieues de Paris et qu'on relègue souvent à l'arrière-plan. Il se sent attaché à cette province ignorée par ses confrères. Jean-Pierre est un indécrottable picard. Il retourne dès qu'il le peut dans sa ville natale d'Amiens. Et même si ses séjours s'y font de plus en plus rares, c'est à cette France-là qu'il se sent redevable. Le 13h sera pour lui la plateforme idéale pour mettre en valeur les régions et leurs terroirs. Il s'agit de donner une visibilité à ce qui passe inaperçu. Quitte à l'idéaliser, la campagne dans laquelle le petit Jean-Pierre a grandi a bien changé. Qu'à cela ne tienne, il faut redécouvrir ce patrimoine et lui rendre hommage. La formule Mourouzi finit par passer au placard. On écarte la politique du journal. On ne déroule plus le tapis rouge aux spécialistes et analystes de tout poil. Place à une actualité proche des Français. Focus sur ce qui impacte directement leur quotidien. Jean-Pierre Pernaut met en place un vaste réseau régional inspiré de ce que font déjà les radios généralistes. Le style privilégie la proximité, l'écoute et la bienveillance. Le sarcasme et l'art de la petite formule ne sont plus de mise. On évite de trop s'attarder sur les sujets d'actualité qui fâchent. Le plombant est évoqué rapidement, les téléspectateurs n'ont pas tant besoin d'une actu à chaud qui risque de leur retourner le cerveau et l'estomac. Il faut les rassurer et aborder des thèmes fédérateurs. Spécialités culinaires de nos régions, petits métiers liés à l'artisanat, destinations touristiques, marchés, foires. Les événements annuels qui rythment la vie de tous les Français sont aussi évoqués en long et en large. On parle de la rentrée des classes, les premières chutes de neige, Noël, Pâques, le départ pour les grandes vacances. Simple comme bonjour. Simpliste, ricanent certains. On s'attend à ce que le journal perde de l'audience. Eh bien non! Les premières semaines, ça stagne, mais peu à peu, le JT gagne des points. Jusqu'au jour où il finit par dépasser le journal concurrent sur la 2. Le 13h de la Une devient à son tour numéro 1. Et les audiences ne cessent de grimper.
Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.
D'où vient ce succès inespéré? Beaucoup dans le petit sérail parisien du monde journalistique s'interrogent. Ce qu'on appellera plus tard la France profonde ne fait pas partie des préoccupations premières des médias en place. La réussite de Jean-Pierre Pernaut tient à plusieurs facteurs. Tout d'abord, une équipe de journalistes soudés et fidèles qui saisit ses motivations. Jean-Pierre les considère comme une seconde famille. Au sein du groupe, on fête les départs en retraite et l'arrivée des petits nouveaux en grande pompe. On ne rechigne pas à sauter sur l'occasion pour un bon moment de détente.
Le partage d'un copieux petit encas sur les tables de rédaction n'est pas rare. Jean-Pierre définit son équipe comme « un village d'irréductibles Gaulois ». Il se rappelle des noms et prénoms de ses collègues. Il les écoute, suit leurs conseils. Pas mal d'entre eux sont là depuis le début de l'aventure. De solides amitiés se nouent. Un de ces journalistes sera témoin de son deuxième mariage avec Nathalie. Nathalie Marquet, son soutien de toujours. Ils se sont rencontrés en 2002 sur les plateaux de l'élection de Miss France. Elle-même a remporté le titre de Reine de Beauté en 1987. Ce soir-là, l'attraction est immédiate. Leur complicité à l'écran est palpable. Ils n'attendent pas. La même année, la petite Lou voit le jour. Un an plus tard, c'est le tour de son frère, Tom. Les tourtereaux sont tous les deux des enfants de la télé. Ils connaissent les impératifs de la profession. Jean-Pierre a besoin d'elle et de sa famille pour rester ancré dans la réalité. Combien autour de lui, privés d'attaches émotionnelles solides, se sont perdus ?
L'amour, c'est... Pour moi, c'est vachement important. On vit d'amour. On vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais on vit bien d'amour.
Il faut informer, mais aussi divertir. Pernaud participe en 1991 aux côtés de Christophe de Chavannes au show télévisé « Combien ça coûte ?». L'émission aborde de front les questions relatives à l'argent. Blagues potaches et décors extravagants sont de mise. L'ambiance bon enfant encourage Jean-Pierre Pernaud à gagner en décontraction et en improvisation. Jean-Pierre sait que le contact avec ses fans et téléspectateurs est primordial. Dans sa vie quotidienne, il interroge et écoute les commerçants de son quartier. Il prend des nouvelles de ses voisins, lit avec assiduité le courrier de ses téléspectateurs. Il met en place une émission de télévision inédite, La parole aux Français, où de simples citoyens peuvent poser directement leurs questions et leurs remarques au président Nicolas Sarkozy. La plus belle confirmation de sa notoriété, il l'a à l'occasion de l'élection du plus beau marché de France en 2018. Il prend un bain de foule. Dans les tribunes, on scande « Jean-Pierre, président !» Car avec le temps, sa présence devient incontournable. Il est pour beaucoup de Français l'égal d'un ami ou d'un membre de la famille. Un signe de stabilité et de durabilité. Sa popularité, il la doit à une population qui, bien souvent, se sent méprisée et rejetée par les élites. Jean-Pierre Pernaud, au fil des années, se fait leur porte-voix. Le présentateur gagne en confiance. Il sort de son devoir de réserve. Il n'hésite pas à commenter les reportages d'une ou deux petites phrases. Il exprime son approbation ou son agacement.
La France de Pernaud, c'est une France qui est riche, qui est belle, qui est variée, qui est étonnante par sa diversité dans les régions, avec des cultures régionales très fortes et des gens qui y sont très attachés. Et puis la France de Pernaud, c'est la France du bon sens. C'est de temps en temps piquer des coups de gueule quand ça le mérite et quand il y a des décisions qu'on ne comprend pas, bah, il ne faut pas faire semblant de les comprendre, il faut dire qu'on ne les comprend pas. Donc la France de Pernaud, c'est une France qui est à la fois très belle, très riche et qui est menacée, qu'il faut donc défendre. C'est ce que je fais dans mon magazine de presse écrite maintenant.
Spontanéité et bon sens populaire sont ses maîtres mots. Il dit ce qu'il pense et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. S'il estime qu'un intervenant use sur le plateau de formules alambiquées, il le fait remarquer. Certaines dents se mettent à grincer. On le soupçonne de populisme et même plus. Certaines de ses remarques feraient le jeu de l'extrême droite et des milieux ultra-conservateurs. Pernaud ne s'en soucie pas. C'est un pragmatique et un apolitique. Il le martèle, se défend d'être un réac. Son indépendance d'esprit et sa méfiance des institutions, il n'a pas à l'éprouver. Il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, voilà tout. Les critiques lui importent peu. Son public l'adore et son audience du 13h de TF1 ne cesse de grimper. Sa formule commence à faire des émules autour de lui. BFM, LCI, le 20h de TF1 commencent eux aussi à s'intéresser aux régions. Jean-Pierre est un infatigable travailleur, toujours sur le pied de guerre. Debout dès 6h, il se consacre aux 13h de 7h30 à 19h30, 5 jours sur 7. Il multiplie les émissions autour du concept. Aimer vivre en France de 1991 à 2001, La France et ses régions, Salut la France et Jouons avec les régions entre 2001 et 2002. Il veut faire encore plus, célébrer les cultures régionales avec de belles images. Célébrer les cultures régionales avec de belles images, oui, mais aussi apporter une aide concrète. En 2010, il crée la plateforme numérique SOS Village. Le site vise à encourager les initiatives locales pour booster la vie au sein des villages. Chacun y est invité à raconter son histoire et déposer une annonce. Le site sert de lien entre les habitants des espaces ruraux. Il fourmille de témoignages, de conseils pratiques et de reportages. À l'opposé de son image d'homme tourné vers le passé, Jean-Pierre Pernaud saisit rapidement l'importance du web et des réseaux sociaux. Il est le premier présentateur à ouvrir un compte Facebook et à s'inscrire sur Twitter. Pour l'élection des plus beaux marchés de France en 2018, il ouvre un site internet afin de comptabiliser les votes. Le site finit par accumuler plus de 3 millions de visiteurs. Il n'arrête pas, il fonce à 100 à l'heure. Cette énergie, il la retrouve dans son autre passion, les courses automobiles, virus transmis par le père. Enfant, il l'accompagnait pour applaudir les 24 heures du Mans. Dès qu'il a eu l'âge de tenir un volant, il s'est essayé aux courses. Il raconte qu'il piquait la Mini de sa mère pour aller disputer des courses amateurs autour d'Amiens. Quand il rentrait avec une coupe, il la cachait sous son lit. Quand Jean-Pierre veut s'échapper du monde télévisé, il file droit vers les circuits de course. Il y retrouve la vélocité qu'il aime tant. Rien ne semble l'arrêter. Ou presque. 2016. Il enchaîne deux coups durs. Sa mère s'éteint doucement dans son sommeil en octobre, à l'âge de 102 ans. 3 semaines plus tard, c'est au tour de son frère, Jean-François, emporté par un cancer du foie. 3 ans qu'il traînait cette maladie. Il l'avait caché à leur mère Françoise jusqu'au bout. Il ne voulait pas l'inquiéter. Le présentateur de télévision est fortement ébranlé par ces deux disparitions. Les ennuis ne s'arrêtent pas là. 2 ans plus tard, on lui diagnostique un cancer de la prostate. L'opération est nécessaire. Il peut compter sur sa famille. Ses enfants sont là, et puis surtout sa femme, Nathalie. Ce n'est pas la première épreuve qu'ils surmonteront ensemble. Ils se souviennent du déchaînement de la presse à scandale au début de leur relation. Les moqueries avaient surgi de toutes parts, mais le plus dur était survenu plus tard. 2005, Nathalie participe à l'émission de télé-réalité « La ferme célébrité ». Les rumeurs fusent. On lui prête une relation avec l'un des candidats. Le couple résiste. Ils font front ensemble et attaquent les journaux mensongers. Nathalie et Jean-Pierre en sortent renforcés dans leur amour. Une autre passion les unit et renforce leur cohésion. Le théâtre. Nathalie commence une carrière de comédienne et Jean-Pierre la suit autant qu'il le peut sur chacune de ses tournées. Les rires du public dans la salle, cette sensation de proximité avec les spectateurs, les discussions avec les fans à la fin de la représentation, il n'en faut pas plus pour que Jean-Pierre soit séduit. Sa femme note son intérêt grandissant. Elle lui propose de jouer un petit rôle surprise un soir, un autre il se fait chauffeur de salle, et puis tout naturellement, ils finissent par écrire ensemble des pièces de théâtre. Piège à Matignon, régime présidentiel, et le succès est au rendez-vous. À l'annonce du cancer de son mari, Nathalie ne baisse pas les bras. Elle-même est passée par cette épreuve dans les années 90. Elle a dû se battre bec et ongle contre une leucémie foudroyante. Les médecins disaient qu'elle n'en sortirait pas vivante. Elle a réussi à leur prouver le contraire. À présent que son mari est lui aussi touché par ce mal insidieux, elle est là pour lui. Elle lui transmet sa combativité et son endurance. Et ça marche. Après 2 mois de traitement intensif, Jean-Pierre est guéri. Il peut reprendre le travail. À son retour, il n'hésite pas à se servir de sa notoriété pour communiquer autour de sa maladie, quitte à briser les tabous. Chez les mecs, le cancer de la prostate, c'est 78 000 cas cette année. 4 hommes sur 10 ont un cancer. C'est important de faire attention et d'en parler. Le temps passe. Jean-Pierre se rend compte qu'il prend de l'âge. Il est sorti vainqueur de son combat contre le cancer, mais il doit se ménager. Autour de lui, le monde change. La télé ne fait plus la pluie et le beau temps comme autrefois. Le web et les réseaux sociaux ont pris le relais. Chaque mot de Jean-Pierre est repris et commenté sur la toile. Les critiques s'accumulent, mais le présentateur du JT tient bon. Le mouvement des Gilets jaunes en 2019 met un frein à la vague d'accusations lancée contre lui. On prend enfin au sérieux cette France dont il est le plus fidèle chroniqueur. Face au climat anxiogène véhiculé par les chaînes d'infos continues, le JT fait plus que tenir bon. Il bat des records d'audience. De 7 à 8 millions de téléspectateurs en moyenne, le journal, après l'arrivée de la TNT, frôle les 12 millions de téléspectateurs. La renommée est désormais internationale. Le 13h devient le premier JT d'Europe à la mi-journée. Sans compter l'Asie, il fait partie des 10 journaux télévisés les plus suivis au monde. Du jamais vu. Mais n'est-il pas temps de freiner un peu ? L'histoire s'accélère.
La télévision n'est pas un miroir du pays. Elle est un miroir de la, dans certains aspects de la télévision. Le journal de 13 heures était un miroir. C'était un journal qui était le reflet de la société telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. J'ai toujours dit ça, il faut qu'on montre la vie telle qu'elle est. Et la télévision, certains aspects de la télévision, le journal de 13 heures, oui, était un reflet de la vraie vie des gens. Le reste à la télé, pas forcément. La télé, c'est un instrument de détente, d'éducation parfois, de divertissement. C'est un stade, c'est une salle de cinéma. C'est pas un miroir. C'est un endroit où on se détend, où on apprend des choses. Et puis le miroir, c'est l'information, et c'était le journal de 13 heures.
Mars 2020, la France est la proie d'une pandémie globale, le coronavirus. Le confinement est décrété dans tout le pays. Jean-Pierre fait partie des personnes à risque. Le cœur lourd, il laisse le journal aux mains de Jacques Legros, de façon temporaire. Il n'est plus devant les caméras de TF1, mais il reste attentif et alerte. Il continue d'observer ce qui se passe. Régulièrement, de chez lui, il commente l'actualité, pointe du doigt les incohérences du gouvernement dans sa gestion de la crise. Dans le privé, c'est une autre histoire. Il prend le temps de se poser et de faire le bilan de sa carrière avec TF1. Il discute avec Nathalie de leur avenir commun. Il est temps d'arrêter le JT, il le sait. Le 15 septembre 2020, Jean-Pierre Pernaut annonce officiellement sur Twitter son départ du journal de 13 heures. Le 18 décembre 2020 sera son dernier JT. On y est. Ce jour-là, tout le monde est réuni pour l'applaudir. Les rires, les larmes. Il ne peut cacher son émotion. Il est assailli par un torrent de souvenirs. Sa gorge se serre. Il n'a aucun regret, mais ses collègues vont lui manquer. Que de chemin parcouru. Et tant de personnes incroyables rencontrées tout au long de son parcours. Il retrace intérieurement tous les événements marquants dont il a été témoin. L'accident nucléaire de Tchernobyl, la victoire des Bleus en 1998, le 11 septembre 2001. Le défilé des présidents français, Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. La mort de quelques-uns parmi eux. Et celle de Johnny Hallyday aussi. Un pincement au cœur. Il était fan et ne manquait aucun de ses concerts. Il sera sérène. Il s'agit d'un au revoir, pas d'un adieu. Il reste au cœur de la scène médiatique. Que ce soit avec la web télé et sa plateforme JPPTV, du magazine de presse écrite au cœur des régions, ou de l'émission Jean-Pierre et vous sur LCI, Jean-Pierre Pernaut poursuit sa route dans le monde de l'info. Le petit Picard a bien grandi. Cet anonyme qui était moqué dans les hautes sphères parisiennes a marqué pour toujours le paysage audiovisuel français. Le 14 juillet 2021, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Jean-Pierre qui est devenu quelqu'un.
Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.